Alors, regardons dans nos Bibles, dans 1 Timothée chapitre 4, et je voudrais lire du verset 1 jusqu'au verset 9 aujourd'hui, et puis on verra, selon la volonté de Dieu, jusqu'à quel verset nous pouvons étudier. Dans 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses, ô frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Prions. Seigneur, je te remercie pour cette rencontre. Merci pour ces frères qui se réunissent ensemble avec nous. Nous savons que c'est toi qui ordonne toutes choses, et même cette rencontre hebdomadaire, afin que nous puissions, par ce moyen, étudier ensemble la parole et être enseignés de toi. Je ne suis qu'un simple porte-parleur de ce que ton esprit me dirige de dire, et les échanges, les commentaires de chacun, nous savons que c'est selon ce que ton esprit nous dirige. Alors nous te prions, Seigneur, de garder nos esprits, garder nos pensées en lisant cette parole, de nous rappeler toujours que c'est ta parole et c'est la parole inspirée et donc une parole certaine. Et ma prière, c'est qu'à travers ces études, nos propres cœurs soient fortifiés d'abord et nos âmes nourries afin que nous puissions à notre tour maintenant aller et annoncer cet évangile autour de nous, à ceux que toi-même tu amènes dans nos assemblées pour nous écouter. Nous savons que tout se passe selon ta volonté et pour cela nous sommes contents et nous te remercions dans le Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que j'apprécie beaucoup en lisant la parole, c'est la certitude de cette parole. Combien de fois nous lisons certains mots et on est en train de lire trop vite et puis nous manquons maintenant le véritable sens. Mais en lisant, ce qui m'a impressionné, c'est par exemple dans le premier verset, lorsque c'est écrit, mais l'Esprit dit expressément. C'est l'Esprit lui-même qui dirigeait Paul à écrire ces paroles, et il aurait pu simplement écrire, mais l'Esprit dit que. Mais quand on voit expressément, là alors ça prend notre attention. Et comme à la fin aussi, dans le verset 9, comme nous avons vu déjà dans le premier chapitre, voici une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alors, ça décrit la manière que nous devons prêcher, annoncer la parole. C'est avec certitude. Et malheureusement, ce que beaucoup entendent aujourd'hui de la bouche des prédicateurs n'est pas une parole certaine, ni digne d'être reçue, parce que c'est inventé par les hommes et ils suivent les traditions des hommes et non pas la parole de Dieu. Et c'est clair, les gens suivent un pasteur ou un prédicateur en ce qu'il dit, croient que la parole qui est devant eux, ou bien parfois même entre leurs mains, dit le contraire. Mais ils ont peur d'adresser ou bien opposer le pasteur parce que ils disent, mais sinon c'est le pasteur. On ne doit pas dire contrairement à ce que dit le pasteur. Et c'est de cette manière que les soi-disant pasteurs aiment diriger leur assemblée. Mais pour nous, tout ce que nous sommes et tout ce que nous croyons doit être soumis à la parole de Dieu. Cette parole est notre autorité. Quand les gens nous demandent avec quelle autorité nous prêchons ce que nous prêchons, il faut savoir qu'ils ont même posé cette question à Christ lui-même. Par quelle autorité est-ce que tu fais ce que tu fais? Bon, la réponse est qu'il est le Fils de Dieu. Christ lui-même a dit qu'il ne parlait que ce que le Père lui a ordonné de dire. Et le Père et Christ sont un. Alors si nous avons en nous l'Esprit du Christ, nous devons avoir cette même habitude, que nous ne parlons que ce que l'Esprit nous dirige de dire. Et comment est-ce que nous pouvons savoir que c'est de l'Esprit? C'est lorsque nous prêchons exactement ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu. Alors, 1 Timothée 4, les versets que je viens de lire, du verset 1 au verset 12, sont vraiments importants comme guide, surtout dans une époque où il y a, comme c'est décrit ici, beaucoup qui s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je ne crois pas que cela s'agit simplement des pratiques animistes où des gens invoquent les esprits des morts. Certainement, il y a de ces pratiques-là, mais je crois que Paul est en train de décrire à Timothée ce qui se passe dans des assemblées où, pour un certain temps, l'Évangile a été prêché. Et puis, maintenant, ça a pris une déviation parce qu'il utilise l'expression là dans le verset 1, « Quelques-uns abandonneront la foi ». Il y a certains qui vont dire, oui, voilà, on peut perdre le salut, mais ce n'est pas le sens. Quand c'est écrit, quelques-uns abandonneront la foi, cela veut dire qu'ils n'étaient jamais dans la foi. On ne peut pas abandonner ce que Dieu lui-même révèle. Alors, voilà la distinction. Il y a beaucoup, comme on a dit tout à l'heure, qui sont appelés, ils entendent le message de la foi. Et la foi, dans le verset 1, est synonyme du mot évangile. Ils abandonnent l'évangile. Ils trouvent mieux un message qui leur donne une pratique ou des pratiques selon leurs œuvres. Et ils imaginent que ces œuvres-là les recommandent à Dieu. Pourtant, Paul dit de ces pratiques que ce sont des doctrines de démons. Voilà ce que les hommes ne constatent pas, parce qu'ils sont zélés pour un Dieu qu'ils imaginent peut accepter leur œuvre, mais en fin de compte, ils suivent des doctrines de démons. Et Paul lui-même a dit ça de ses frères selon la chair. Il admettait qu'ils étaient zélés, mais pas selon la connaissance de Dieu. Alors, il y a la foi qui est annoncée dans la parole de Dieu, et cette foi donne toute la gloire à Christ, et c'est toujours la foi qui annonce la justification et la sanctification des pécheurs pour qui Christ est mort. Quand on pose la question à quel moment, à quel temps est-ce que Dieu a justifié son peuple? Il y en a qui disent, oui, mais c'est depuis l'éternité, parce que Dieu est éternel. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. C'est vrai que la justification des pécheurs était ordonnée, prédestinée depuis l'éternité, mais sans le versement de sang, sans le paiement de la dette du péché par le sang versé, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de justification. Les péchés ne peuvent pas être ôtés. Alors, cela amène maintenant la doctrine à la croix. Voilà l'importance de la croix. C'était nécessaire que Christ vienne dans le monde et qu'il donne sa vie afin que Dieu soit juste tout en justifiant ceux qui croiraient. Alors, la croyance, c'est par la révélation de cette foi. Et une fois que c'est révélé, ceux à qui cette foi est révélée ne vont jamais abandonner cette foi, parce que c'est Christ lui-même qui les tient dans sa main. Alors, il y en a qui disent non, mais nous ne sommes pas justifiés jusqu'à ce que nous croyons. Et ils mettent l'accent sur la foi personnelle de chacun. Et là encore, ça c'est contraire à ce que dit la Bible, parce que la foi personnelle ne sauve pas. C'est l'objet de la foi qui sauve. Et lorsque l'Esprit révèle Christ dans le cœur, il y a cette foi qui est donnée aux pécheurs de regarder à Christ seul. Alors s'il s'agit ici de quelques-uns qui abandonneront la foi, cela veut dire qu'ils sont ceux qui ont écouté pendant un certain temps, qui ont été sous l'influence des apôtres ou d'autres prédicateurs à l'époque, mais c'est comme de nos jours. L'Évangile est prêché dans le monde aujourd'hui. C'est pas partout, mais Dieu a ses serviteurs qu'il a suscités. Ils sont peut-être peu nombreux par rapport à ceux qui prêchent un autre Évangile, mais néanmoins, Dieu a ses témoins. Et c'est comme nous. Nous prêchons cet Évangile qui est contraire à tout ce que l'homme peut imaginer. Et il y en a qui écoutent pendant un certain temps et puis ils s'en vont. Ils abandonnent la foi. Ça, c'est le sens. Mais voilà le point ici. C'est que si quelqu'un abandonne ce message de Christ et Christ crucifié, ce message qui donne toute la gloire à Dieu, ce message qui dit que l'homme n'a pas de libre arbitre, que son arbitre, si vous voulez, est dépravé, c'est pourri, c'est corrompu de péché, et que c'est par la grâce de Dieu seul qu'un pécheur est sauvé. Et cette grâce, c'est Dieu qui la donne comme il veut, où il veut, à qui il veut, selon son plan éternel. Vous voyez? Quand nous prêchons ce message et quelqu'un abandonne, donc l'alternative, c'est quoi? S'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Cela veut dire qu'ils sont livrés à Satan pour que Satan et ses démons continuent à les aveugler jusqu'à la condamnation. On a parlé tout à l'heure de la grenouille qu'on met dans l'eau et puis on commence à chauffer l'eau. La grenouille ne sent pas que la chaleur arrivait à une certaine température, ça va la tuer. Elle reste dans l'eau au lieu de sauter et se sauver. Et c'est comme ça que beaucoup sont livrés à eux-mêmes. Ils suivent des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Tout ce qui donne la gloire à l'homme, on peut dire, ça fait partie des doctrines de démons. Ça fait part de ces esprits séducteurs. Ouais, c'est au pluriel. Il y a plusieurs manières que les hommes sont trompés. Parfois, c'est l'esprit d'orgueil, l'esprit d'aveuglement, c'est l'esprit de la convoitise. Les hommes convoitent la gloire de l'homme et préfère être glorifié que de se soumettre à Christ et donner la gloire à Christ seul. Et encore, nous voyons que c'est au pluriel, parce qu'en ce qui concerne les fausses doctrines, il y en a plusieurs. C'est pourquoi on voit tant de dénominations, tant de soi-disant églises, organisations, qui sont divisées l'une contre l'autre, parce que les hommes continuent à bâtir leur organisation au nom des hommes. Alors, il y en a plusieurs par rapport à, ou contre ce qu'on a vu ici, la doctrine de Christ. Toutefois, dans la Bible, quand il s'agit de la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Dans le verset 6, Paul a dit ça à Timothée, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministère de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, encore de l'Évangile, ou on peut aussi mettre là de Christ, parce que la foi s'agit de Christ et Christ crucifié, et notez bien, de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Voilà encore un de ces mots-là, précis, exactement suivi. Nous ne dévions pas de ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu. Alors, voilà la comparaison. Donc, ne soyons pas découragés du fait qu'il y a beaucoup plus qui suivent ces prédicateurs d'œuvres, parce que il n'y a rien à convoiter de leur côté. C'est la manière que Dieu lui-même livre les hommes à leur sens réprouvé pour suivre des esprits séducteurs. Voilà le mot-clé, séduire. C'est quelque chose qui n'est pas apparemment faux que les gens suivent. C'est pourquoi c'est la séduction. Si quelque chose est évident, on ne peut pas dire que c'est une séduction, c'est évident. Mais quand les gens prennent la parole, voilà ce qui séduit. Et il y en a, à travers les années, à qui j'ai parlé, ils disent non, mais tu sais, ils prêchent la parole. Il a la Bible, nous avons tous nos Bibles, et il nous dit au début de chaque sermon d'ouvrir nos Bibles et suivre. Alors, ça fait partie de la séduction, parce que ces hommes, apparemment, représentent Dieu, parce qu'ils ont la Bible dans leurs mains. Mais la question, c'est comment est-ce qu'ils commentent la Bible? Comment est-ce qu'ils sont en train de prêcher cette parole? Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup qui pervertissent cette parole à leur propre ruine. Ils tordent le sens. Et les gens suivent alors l'interprétation que de suivre la parole. Alors pour cela, c'est une séduction, ce n'est pas évident. Paul a dit aux Corinthiens de faire attention parce que même Satan lui-même se transforme en ange de lumière, en messager de lumière. Et ces gens prennent un peu de vérité et puis ils tournent ça maintenant en mensonge. Et c'est ça la séduction. Vous savez que pour tuer un rat, le poison qu'on met là, c'est 99% le riz. C'est une bonne nourriture. Mais on prend une partie de poison pour mettre dedans et c'est ça qui tue le rat. Et je dirais que c'est comme ça que beaucoup prêchent. Ils prennent la vérité. Et il y a peut-être des vérités dans ce qu'ils disent, mais ce n'est pas la vérité. Il y en a qui disent que, oui, c'est par la mort de Christ que nous sommes sauvés. Alors, quand tu entends seulement cette phrase, on peut imaginer, bon, c'est une vérité, c'est par la mort de Christ que nous sommes sauvés. Mais, alors, le prédicateur continue à commenter en disant, mais, si tu ne crois pas à sa mort, alors c'est en vain que Christ est mort. Voilà le mensonge. Mais les hommes aiment cette manière de prêcher, parce que ça donne le pouvoir à l'homme. L'homme aime avoir ce pouvoir. L'homme aime que quelqu'un lui dise que tout dépend de lui. Ça lui donne un certain sens de pouvoir, mais c'est le mensonge. Du début jusqu'à la fin, le salut vient de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Et quand on lit la Bible, nous savons que tous ceux pour qui Christ est mort seront et sont sauvés, parce que c'est sa mort qui sauve. C'est pourquoi Christ a dit, de tout ce que le Père lui a donné, il ne perdra rien. Alors, et qu'il le ressuscitera au dernier jour. Ça, c'est le salut certain. Ça, c'est cette parole certaine et entièrement digne d'être reçue par rapport ou contre ce que les hommes en prêchent. Alors, si on fait une liste, on peut savoir comment est décrit la doctrine de l'homme ou bien des faux docteurs ou la fausse doctrine. C'est un abandonnement de la foi, numéro un, et c'est animé par des esprits séducteurs, c'est des doctrines de démons, parce que Satan ne peut jamais donner la gloire à Christ. Il peut utiliser le nom de Christ pour attirer les pécheurs au mensonge, en les faisant croire qu'ils sont vraiment en venant, selon l'invitation du prédicateur, de faire penser qu'ils sont en train de venir à Christ, mais c'est le mensonge. Ils viennent au pasteur, peut-être qu'ils répondent à son appel, mais ce n'est pas l'appel de Christ, ce n'est pas de cette manière que Christ appelle. Mais dans le verset 2 aussi, ouais, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure signifie simplement que ils ne sentent pas le mensonge. Ils ne sentent pas ce qui est faux en ce qu'ils sont en train d'écrire. Leur conscience est entièrement dominée alors par ces règlements, par ces traditions des hommes. Alors, jusqu'à tel point que quand ils entendent la vérité, ça ne leur dit rien. Ils continuent à rester attachés à ces traditions d'hommes. Et c'est écrit par l'hypocrisie de faux docteurs. L'hypocrisie dans le sens que ceux qui prêchent ces traditions comme un moyen de salut, eux-mêmes, ils ne suivent pas ce qu'ils prêchent. Ils aiment prêcher la loi, mais c'est cette même loi qui les condamne. Alors, c'est de l'hypocrisie. Parce que la loi juge non seulement l'extérieur, ce que l'homme fait, mais ça juge le cœur, ça juge les pensées. Même si la parole ne sort pas de la bouche de quelqu'un, la loi condamne ses pensées. Tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu est condamnable, est condamné par la loi. Mais ils sont hypocrites, les faux docteurs, dans le sens qu'ils prétendent, ils prêchent comme s'ils sont saints. Et ils prêchent ces règlements qui n'ont rien à faire avec le salut. Et ils imposent ces règlements sur leurs adeptes. C'est pas des adeptes de Christ, leurs adeptes. C'est pourquoi on voit des gens parfois porter des habillements entièrement blancs. Ils marchent à pieds nus. Ils font toutes sortes de cérémonies dans le nom de l'adoration. Ils appellent ça l'adoration, mais c'est pas l'adoration de Dieu, c'est de l'hypocrisie. Parce que ça ne peut pas satisfaire à la justice de Dieu. Alors, Paul décrit ici dans le verset 3, certaines de ces traditions qui étaient imposées à l'époque, mais quand je les lis, je dois dire que rien n'a changé à travers les époques, à travers les années. Parce que les mêmes choses sont prêchées aujourd'hui. Et notez, ces choses sont des choses extérieures, visibles, charnelles. Parce qu'il dit prescrivant, c'est intéressant le mot, parce que quand tu vas voir un docteur, il prescrit des médicaments. Et notez bien, c'est le mot utilisé dans le verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs. Il y en a qui ont leur bureau, et de toute apparence, c'est un bon docteur, et on s'assoit et il prétend prescrire un bon médicament Mais en fin de compte, il y en a qui meurent de leur maladie parce que c'est un faux docteur. Ce qui prescrit ne peut pas aider la maladie. Le docteur cherche seulement à gagner de l'argent, gagner sa vie de cette manière. Pourtant, il n'a pas à cœur ses clients qui viennent le voir, qui sont malades. Ce sont des faux docteurs. Et dans le verset 3, prescrivant, premièrement, de ne pas se marier. Comme si l'abstinence est une manière de se recommander à Dieu. Nous savons que ça, c'est une fausse doctrine qui continue aujourd'hui. Il y en a qui se donnent, selon eux, au ministère de Dieu, et ils vivent une vie célibataire, et ils sont entièrement mariés à leur église. Alors, ils sont appréciés par les hommes que voilà, ça c'est vraiment quelqu'un hein, qui s'abstient de se marier, et voilà, c'est celui-là vraiment un homme de Dieu, ou bien une femme de Dieu. Mais notez bien que Paul dit à Timothée, ça fait partie de ceux qui sont de ces doctrines de démons. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que l'homme ne doit pas se marier pour être saint devant Dieu. Que nous soyons mariés ou pas. Même la Bible dit, mieux vaut se marier que de tomber dans une vie de péché, de fornication. Ouais. Le mariage, Dieu l'a ordonné, c'est une bonne chose. Parce que c'est une image de Christ et son Église. Alors, ceux qui prétendent que de ne pas se marier, c'est mieux que ceux qui se marient, c'est contrairement à la doctrine de la foi. Parce que nous soyons mariés ou pas, cela n'affecte pas notre état devant Dieu. Il n'y a qu'une seule base pour être justifié devant Dieu, et c'est le sang versé de Christ. Et cette justice imputée une fois pour toutes par Dieu, lorsque Christ a fini son œuvre à la croix. Mais, ouais, ces règlements ont une apparence, aux yeux des hommes, une apparence de spiritualité. Alors, c'est pourquoi les gens s'attachent à cela. Mais deuxièmement, c'est écrit là aussi de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Notez, les deux choses qui sont mentionnées ici, c'est de s'abstenir. Les gens imaginent que si on s'abstient de certaines pratiques, alors cela fait de nous des hommes plus spirituels que les autres. Ici, en Louisiane, présentement, c'est l'époque de ce qu'ils appellent Mardi Gras. Alors, c'est une influence catholique à l'époque, mais pendant 40 jours avant, ce qu'ils disent, c'est la date de la mort de Christ, les gens sont encouragés pendant la semaine à s'abstenir de certaines choses pour se recommander davantage devant Dieu. J'ai parlé l'autre jour, il y a une femme qui me demandait si je faisais cette pratique. Je disais non, parce que je suis un enfant libre. Alors elle a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, mais c'est Christ qui a racheté mon âme, et donc je ne suis pas influencé par ce que je mange ou je ne mange pas, ce que je bois ou je ne bois pas. Je suis entièrement Christ. Et mon salut dépend de lui. Et elle me disait, bon, pour moi, tu sais, ma grande convoitise, c'est le commerce. Alors, pendant ces 40 jours, je ne fais plus le commerce, je donne tout cela à Dieu. Et puis, je crois que par là, je me purifie davantage. Et j'ai dû lui dire, mais c'est du mensonge. Parce que s'abstenir du commerce pendant un certain temps pour dire que c'est ça qui va effacer ou diminuer tes péchés, c'est du mensonge. Si Christ lui-même n'a pas porté les péchés d'un pécheur à la croix, donc les péchés demeurent. Il n'y a pas d'autre rançon que sa rançon. Alors, Ouais, pourquoi c'est important de voir ça dans le contexte? Toujours, c'est les œuvres contre la grâce. La grâce de Dieu déclare que c'est Christ qui est le Sauveur et que Dieu lui-même a ordonné le salut des pécheurs par la mort de Christ. Point. C'est tout. Si Christ est mort pour moi, c'est que l'Esprit alors m'attirera, il me donnera cet Esprit de Christ pour que je regarde à Christ et Christ seul. Et le reste, quelle que soit la dénomination, c'est le mensonge, c'est des doctrines de démons, c'est des faux docteurs. Il faut dire c'est les masses, parce que la plus grande partie du monde religieux est dans cette catégorie-là. Il faut aller en arrière jusqu'à l'époque de Caïn et Abel. Caïn portait les fruits qu'il jugeait bien et il voulait offrir ses fruits, c'était des œuvres de ses mains. Il a vraiment travaillé. Je ne pense pas qu'il a amené des légumes qui étaient déjà pourris. Il a amené le meilleur de ce qu'il a pu cultiver. Et Dieu a rejeté son offrande. Pourquoi? Parce que peut-être les tomates ressemblent au sang, mais il n'y a pas de sang dans les tomates. Le sang versé, c'est ce que Dieu a exigé depuis le jardin, depuis la chute. Adam et Ève ont essayé de couvrir leur nudité avec les feuilles de figuier, mais Dieu a enlevé ces feuilles, il a tué des animaux innocents et il a habillé Adam et Ève avec la peau, les peaux de ces animaux. Ça, c'était une image, une photo de la manière que Dieu sauve des pécheurs à travers le sang de Christ. Alors, si Christ est mort pour nous, donc nous sommes libres. Nous sommes libérés de toute exigence de la loi comme moyen du salut. Même Paul, en écrivant aux Galates, a dit ça dans la Galates chapitre 5 et le verset 1. C'est pourquoi la liberté que Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est ce que ces gens qui sont donnés aux doctrines de démons, les faux docteurs, les prédicateurs d'œuvres, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent vous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et nous devons résister. C'est pourquoi Paul dit ici dans 1 Timothée 3 que Dieu a créé des aliments pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui sont connus, qui ont connu la vérité. Je me rappelle quand je suis allé à l'époque prêcher en Afrique, il y en a qui ont beaucoup de totems. Je me souviens quand on essaie d'avoir des repas en commun à l'église et qu'il y avait, surtout à Gayo, il y avait des gens de plusieurs tribus qui venaient fréquenter à l'église. Et je peux dire que c'est comme ça partout en Afrique. Il y a beaucoup de différentes langues et de tribus. Mais il faut dire aussi des traditions dépendant de la tribu. Et il y en a qui emmenaient dans ces repas en commun. Je me souviens une fois, quelqu'un a amené un singe. Ils ont voulu partager ça avec les frères, mais il y a d'autres qui étaient scandalisés parce que pour eux, ils ne mangent pas les singes. Pour eux, c'était des ancêtres. Et donc, c'était le totem. Et je me souviens que à travers le temps, en prêchant l'évangile, au fur et à mesure que le Seigneur lui-même convertissait les cœurs, ces traditions tombaient. Ils ont vu que non, ce n'est pas en s'abstenant de ces choses que, ou bien en mangeant que nous serons condamnés, ou bien que nous allons améliorer notre vie ou éviter certaines difficultés en mangeant ou pas. Mais il faut dire que beaucoup sont toujours de cette pensée-là. Mais Paul dit clairement que Dieu a créé tout aliment pour être reçu, comme c'est écrit dans le verset 3, avec action de grâce. Mais notez bien, qui ont cette pensée libre? C'est écrit par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ce mot fidèle, ça ne veut pas dire que nous sommes fidèles à nous-mêmes, mais ça parle de ce que Dieu lui-même a rendu fidèle en son Fils Jésus-Christ. Ils sont fidèles à Christ. Ils ne s'attachent pas aux traditions des hommes, mais fidèles à Christ. Et qui sont ceux qui sont fidèles à Christ? C'est ceux qui ont connu la vérité. Le mot connaître, là, veut dire expérimenter. Cela veut dire que l'Esprit a révélé la vérité en eux, et c'est ainsi qu'ils ont connu la vérité. C'est le mystère que nous avons vu dans le verset 16 du chapitre 3. Ce mystère de la piété, de cette véritable adoration de Dieu est grand. Et c'est d'être attaché à celui qui était manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est d'être fidèle à celui-là, contre toute autre doctrine qui est fausse. Alors, verset 4, « Car tout ce que Dieu a créé est bon. » Il n'y a pas de distinction en ce que Dieu a créé dans ce monde. Tout nous est donné pour notre bien. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Deux fois, ce mot « action de grâce » est mentionné. Dans le verset 3 et maintenant aussi dans le verset 4. Je ne pense pas que cela signifie que chaque fois avant de manger, nous devons baisser nos têtes et faire une prière comme on voit certains dire. Je dois dire qu'il y a beaucoup de superstitions. Parfois je mange au restaurant, ici à Shreveport et ailleurs, et je suis avec des gens, et quand on nous sert un plat, je dis à tout le monde bon appétit, je commence à manger, et il y en a qui m'arrêtent, ils disent « Oh non, mais on n'a pas encore demandé la bénédiction, donc on ne doit pas manger. » Et je leur dis « Mais comment est-ce que vous savez que je n'ai pas demandé la bénédiction ?» Et ils disent « Mais on ne vous a pas vu baisser la tête et prier. » Et je leur dis « Mais ça vient du cœur. Je suis reconnaissant au Seigneur. Les actions de grâce proviennent du cœur. Et pas de lèvres. Il y en a qui font cette pratique, qui prient à un Dieu inconnu. Je les vois, ils baissent la tête. Et surtout, quand je suis avec des gens qui se croient chrétiens, mais on connaît leur doctrine, et puis ils veulent nous mettre encore sous ce joug de servitude en imaginant que nous croyons au même Dieu qu'eux. Alors quand ils disent prions, ma question c'est que à quel Dieu est-ce que nous prions? Oui, et c'est facile pour les gens de dire prions. Invoquons le nom du Seigneur, mais ma question c'est quel nom, quel Seigneur? Nous devons être dans ces cas-là comme les amis de Daniel, que lorsque Nebuchadnezzar a sonné les trompettes pour que les gens s'abaissent et adorent le statut qu'il a élevé, que les trois ont refusé. Et le roi, en les voyant, imaginant qu'ils n'ont pas bien entendu, il les appelait et dit « Bon, mais quand on entend la musique, il faut se prosterner. » Ils ont refusé deux fois. C'est là qu'il a constaté qu'il y avait une raison pour laquelle il ne s'abaissait pas. C'est parce que le dieu de Nebuchadnezzar n'était pas leur dieu. Alors, parfois, on doit prendre de telles décisions devant les hommes et leur dire ouvertement, le Dieu que vous adorez n'est pas mon Dieu. C'est pourquoi je ne participe pas. Mais les actions de grâce mentionnées ici, c'est ce qui provient du cœur. Je peux manger n'importe quoi avec action de grâce. Et il faut dire que quand les années que j'étais en Afrique, j'ai dû manger pas mal de plats auxquels je n'étais pas habitué. Je me souviens une fois, le frère aussi Bernard qui m'a servi un piton. Je ne suis pas habitué à manger le serpent, mais c'est ce que sa femme a préparé et j'ai dû manger ça avec action de grâce. Je me souviens même une fois à Cotonou, c'est un plat qu'on trouve dans le marché où on prend le sang coagulé et on mélange ça avec une sauce de farine. Et il y avait des frères qui voulaient que je mange avec eux. Je m'assois et je commence à manger et puis on me dit que c'est le sang coagulé et c'était un plat préféré. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais j'ai dû manger ça contrairement à la manière que j'étais élevé. Ce n'était pas un plat auquel j'étais habitué. Pourtant, j'ai mangé avec action de grâce parce que c'était le plat qui m'a été préparé et qui m'a été offert. Alors, pour cela, j'ai mangé. Ici, aux États-Unis, on me taquine souvent parce que je ne refuse pas la nourriture, quelle que soit la nourriture. Si quelqu'un a préparé cette nourriture, c'est avec action de grâce que je reçois cette nourriture. C'est de l'hospitalité. Mais je connais d'autres qui sont, ils disent, mais je ne mangerai jamais cela. Et si c'était le dernier plat que tu avais, est-ce que tu pourrais prendre ce plat avec action de grâce? Ouais, nous sommes en quelque sorte comme des petits dieux nous-mêmes. Nous voulons décider ce que nous allons manger, ce que nous n'allons pas manger. Et on refuse celui-ci, on refuse cela parce que ça ne nous plaît pas. Mais ici, je crois que ce qui est décrit, c'est le fruit de l'Esprit qui nous donne cette action de grâce, de pouvoir vivre dans ce monde que Dieu a créé en toute liberté, puisque nous sommes libérés, et de faire tout ce que nous faisons avec action de grâce. Notez bien, verset 4, « Rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » C'est une attitude du cœur. Ce n'est pas une tradition qu'on doit enseigner à nos enfants, comme certains parents font. Ils demandent même les plus petits enfants de prier, parce qu'ils disent il faut qu'on leur apprenne dès le départ. Et quand l'enfant, de sa façon, dit quelques mots et puis ça fait rire, tout le monde rit, ils applaudissent même l'enfant. Ouais, c'est une bonne prière ça. Ça, ce n'est pas l'action de grâce, c'est du cœur. Et ça ne doit pas être comme Christ a dit en Matthieu. Nous ne devons pas porter notre justice devant les hommes. Si je prie, c'est en secret. Les gens ne doivent pas me voir au coin de rue en train de faire ce qu'on appelle la prière, parce que si c'est fait pour être vu des hommes, donc ce n'est pas la prière. Alors, verset 5 donne la raison quand tu dis, tu vois, tout ça c'est lié. Verset 4 commence avec « car tout ce que Dieu a créé est bon », ça c'est une conclusion. Et parce que, maintenant, verset 5 donne la raison, parce que tout est sanctifié, comment? Par la parole de Dieu et par la prière. Sanctifié, autorisé déjà par la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons par l'autorité de la parole de Dieu. Et quand c'est écrit la prière, là encore, la prière, est-ce que quelque chose de l'externe ou bien c'est une attitude de cœur? Quand la Bible dit prier sans cesse, cela ne veut pas dire que nous devons toujours être dans une position de prière comme on voit certains, la tête face à la terre ou bien la tête baissée. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est des positions du corps qui ne signifient pas réellement la position du cœur. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que dans le verset 8, c'est écrit exerce-toi à la piété. Encore, piété s'agit d'une crainte de Dieu. C'est la manière que nous adorons Dieu. Nous devons nous exercer à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et puis, dans le verset 8, quand c'est écrit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Est-ce que vous savez, dans le contexte, quand il parle de l'exercice corporel, il n'est pas en train de parler de courir ou bien de faire de l'exercice pour perdre des poids ou garder la santé. Non. Il utilise cela dans le sens de tous ces exercices corporels que les gens exigent dans la fausseté. Cela veut dire s'abstenir d'aliments ou bien s'abstenir de se marier. Il faut dire que dans les assemblées, il y a beaucoup d'exercices corporels. Les gens élèvent les mains, ils s'abaissent, ils s'agenouillent, ils font toutes sortes d'exercices corporels, et il dit c'est utile à peu de choses. Cela veut dire, en réalité, le peu de choses, c'est seulement d'influencer peut-être des hommes, mais ça n'a aucun bénéfice en ce qui concerne Dieu. Parce qu'il dit, tandis que la piété, cela veut dire, encore, le mot piété ici, c'est la crainte de Dieu, est utile à tout. Cela veut dire que si, à travers cette parole que nous lisons, Dieu, il a plu à Dieu de révéler Christ en nous, et il nous donne maintenant cet esprit d'adoration pour Dieu, mais à travers Christ et Christ seul, cet exercice, cela veut dire c'est le fruit de l'esprit, est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La promesse, ça c'est Christ, c'est une évidence que quelqu'un appartient à Christ lorsqu'il adore Dieu de cette manière. Et c'est simple. C'est pourquoi, même dans nos réunions, ça doit être dans la simplicité. Ce n'est pas avec des gens en train de courir par-ci, par-là, se lever, élever la voix, tout ce qu'on voit dans des assemblées. Non, il y a une certaine tranquillité. C'est avec un esprit d'action de grâce. Je vois ça ici, dans cette congrégation pour qui je prêche ici à Shreveport. Nous ne sommes pas nombreux, mais je dois dire que ceux qui viennent, ils apprécient l'Évangile. Ils apprécient la parole. Ils me disent ça après. Ah, Dieu a tellement béni mon cœur à travers sa parole aujourd'hui. Et ensemble, nous remercions le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur, puisque c'est l'Esprit qui a nourri nos âmes à travers la parole qui est Christ. Et vous savez, ça c'est le plat que nous voulons. Nous ne voulons pas autre nourriture que Christ et Christ crucifié. Nous ne voulons autre chose que la pain de vie. Nous ne voulons pas nous mélanger avec toutes ces autres traditions d'hommes que nous voyons dans le monde, mais que ce soit Christ qui est notre tout. Alors je vais m'arrêter là, il y a beaucoup d'autres points qu'on pouvait souligner. On va reprendre la semaine prochaine avec le verset 6 en exposant ces choses aux frères. Cela veut dire l'Évangile, en prêchant Christ aux frères. Christ crucifié, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. On ne peut pas être un bon ministre de Jésus-Christ si on n'annonce pas Christ, s'il n'est pas notre unique message. Et je dois dire que ça ne prend pas beaucoup de temps de s'asseoir et écouter un prédicateur pour connaître si c'est quelqu'un qui est dirigé par ses esprits de démons ou bien si c'est véritablement un ministre de Jésus-Christ. Parce qu'un ministre de Jésus-Christ, du début de son message jusqu'à la fin, c'est ce qu'il annonce. Christ et Christ crucifié, il lui donne toute la gloire. Alors, je vais m'arrêter là. Si le Seigneur a mis quelques pensées sur votre cœur, c'est un bon moment maintenant de partager ça avec nous.
Ah oui, merci bien. Et l'apôtre Paul a souligné au verset 2 que par hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la fraîtissure dans leur propre conscience. Et souvent c'est ce que nous observons là où l'évangile est prêché, là où le peuple de Dieu se réunit, et partout en général, les hommes se sentant diminués et veulent toujours se faire une haute opinion d'eux-mêmes, et ils créent des choses exprès pour faire impression. Et sur cette base, maintenant, ils commencent par se donner et se faire attirer, impressionner les gens et créer une certaine scission pour se voir plus spirituel que d'autres. À partir de ce moment, ils commencent par s'observer de l'extérieur. Et tout cela est souvent le signe que tous ne se voient pas réellement en Christ. Et c'est là un véritable piège, parce que quand nous sommes ensemble en tant qu'hommes toujours, on veut toujours se voir au-delà de ce que Dieu, par sa grâce, a voulu que nous soyons en Christ. Paul a dit, et je crois dans 2 Corinthiens 2, verset 15, que nous sommes pour Dieu, nous sommes en effet pour Dieu, voyez, la bonne odeur de Christ.
Mm-hmm.
Et cela seulement parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Normalement, si quelqu'un est réellement en Christ, il se voit entièrement sanctifié par Christ. Il ne voit pas sa prière à part comme une chose qui apporte la bénédiction sur un repas.
Amen.
Ou bien l'opinion qu'il se fait de lui-même comme une chose particulière qui rend les autres plus saints ou plus spirituels.
Voilà.
Si nous sommes réellement dans la foi, nous devons savoir que tous ensemble, quelles que soient nos différences, nous sommes le parfum de Christ. Et tout ce que nous sommes, faisons, doit être vu dans cette bonne odeur de Dieu en Christ. Et c'est souvent ceux qui ne se voient pas réellement dans cette révélation qui commencent par se faire une haute opinion d'eux-mêmes. Surtout quand ils se voient diminuer et parmi tout le monde au regard de Christ. Quand l'évangile est prêché, tout le monde se retrouve à terre et Dieu seul est élevé. Mais l'homme qui ne voit pas de Christ se sent tellement diminué qu'il veut créer quelque chose de charnel pour faire impression. Et il pense, il dit effectivement des choses pour toucher la psychologie des gens. Et psychologiquement, les hommes se pensent comme le frère, comment il s'appelle maintenant, de la France, vient de dire Amédée. C'est-à-dire, il se sent, ce que les hommes se sentent les intéresse plus que ce qu'ils sont réellement en Christ par la foi. Et ce faux docteur, en réalité, faisant impression, amène les hommes psychologiquement à se faire une sensation qui finisse par les mettre au-dessus de tout et même à s'éloigner de la foi. Et nous devons effectivement être éveillés. L'apôtre Paul disait dans Romains 12 que personne n'ait une haute opinion de lui-même, mais de se revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Chaque personne doit se voir en Jésus-Christ. Même ce n'est pas notre prière à part qui fait quelque chose, ce n'est pas ce que nous disons ou prescrivons aux gens en nous donnant une autre impression pour impressionner les gens psychologiquement qui sera quelque chose, mais c'est notre part dans le Seigneur et qui est toujours le seul et même parfait de bonne odeur parmi tous. Normalement, on doit distinguer ceux qui sont sauvés de ceux qui ne sont pas sauvés à travers ceux qui le passé de Christ qui se ressent en nous, ceux pour qui c'est une odeur de mort, ils ne sont réellement pas sauvés. Mais si le passé de Christ en nous, c'est une odeur de vie, ils sont sauvés. Maintenant, si ce passé de Christ ne sauve pas quelqu'un, ce n'est pas l'impression que nous nous donnons, ou en touchant les gens psychologiquement pour qu'ils se sentent dans un état et psychologique qui les met en état, en transe, que nous allons leur faire croire qu'ils sont enfants de Dieu.
Amen.
C'est une raison pour laquelle nous devons réellement tenir ferme dans l'application de l'évangile pour que Dieu lui-même fasse le tamis. Ceux qui ne sont pas de Dieu se feront d'eux-mêmes une haute opinion et finiront par communiquer. C'est là où j'en viens un peu, j'ai un peu de problème au niveau du verset 2 et 3. Je n'arrive pas à cerner, et c'est là une question que je vous adresse. Je n'arrive pas à cerner l'opinion du faux docteur qui par hypocrisie et portant la marque de la fratricie dans leur propre conscience prescrit de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments pourvu qu'ils soient créés prie avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui, sont, et qui ont connu la vérité. Je n'avais pas distingué ce que ceux qui sont réellement en Christ dans la foi croient de ce que disent les faux docteurs ici. Sinon, moi, je suis en train de voir à travers ceci que, à travers l'opinion des uns et des gens, les faux docteurs continuent toujours de dire et que c'est peut-être eux qui sont fidèles et qui peuvent faire certaines choses et maintenant les autres ne doivent pas faire. C'est eux qui connaissent la vérité, peut-être leur vérité à eux, c'est leur opinion avec laquelle ils font impression et amènent les gens à se faire cette impression. Et quand le mal, ou bien ceux qui sont en train de condamner chez les autres, et se retournent contre eux après maintenant, ils se disent que c'est seulement eux qui connaissent la vérité qui peuvent le faire. Donc en réalité, je ne sais pas, est-ce que la parole qui a suivi pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité là, est-ce que c'est la parole de Paul concernant l'enseignement et de Christ par ceux qui sont jugés fidèles en Christ par la grâce de Dieu, ou plutôt l'opinion peut-être de ces faux docteurs-là qui se disent connaissant la vérité, alors que la vérité qu'ils pensent connaître et dont ils pensent être fidèles là est une impression qu'ils se donnent psychologiquement. Vous voyez, c'est toi qui vois un peu la subtilité de ma question là. Mm-hmm. Ouais, donc je vais en même temps profiter par là pour dire que souvent dans l'assemblée, les faux docteurs laissent voir certaines règles, certains enseignements, et après quand ça les plaît eux-mêmes, ils disent que c'est eux seuls qui ont la liberté de le prendre et non les autres à qui ils sont enseignés cela. Mais la vérité, la véritable piété, comme nous venons de l'entendre, c'est vraiment une crainte respectueuse dans le cœur et le respect que l'on a pour la gloire de Dieu, la personne de Dieu en tous. Personne n'est sanctifié à part et d'autres à part, et eux, ils ont la liberté de faire ou de manger certaines choses et les autres ne le sont pas. Tous, nous sommes le même parfum, et si quelqu'un est de Christ, il nous aimera et il nous recevra de la même manière, quel que soit le repas que nous prenons ou ne prenons pas. Maintenant, si quelqu'un va nous rejeter, ce sera parce qu'il ne sent pas cette odeur de vie qui se trouve en nous, et il sent plutôt une odeur de mort. Et rien dans ce monde ne peut maintenant ramener les non-sauvés vers ceux qui sont sauvés pour qu'ils sentent l'odeur. Et chacun de nous doit rester vigilant à ce sens et être aussi sobre que possible pour ne pas nous identifier à des opinions d'hommes qui font impression, mais toujours et fermement à la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour la foi des élus. Voilà ce que j'ai un peu à dire. Je ne sais pas si vous avez une précision peut-être à donner à ce niveau par rapport à cette connaissance, comme il le dit, parce que ça semble être un peu toujours l'idée des faux docteurs, tandis qu'il y a la vérité, nous-mêmes et tout ce que nous sommes sanctifiés par la parole et par la prière. Mais la prière, comme je le dis, ce n'est pas notre prière que nous faisons vis-à-vis d'un repas, mais tout ce que nous sommes, que ce soit notre prière, que ce soit ce que nous mangeons, nous sommes sanctifiés par Christ et nous répandons l'odeur de Christ et non notre odeur ou l'odeur de nos opinions. Merci.
Très bien.
Pardon.
Je ne sais
plus. Mais oui. Pas seulement, je peux juste ajouter là.
Oui, vas-y.
Parce qu'en fait, vraiment, je remercie le Seigneur pour cette étude, vraiment, qui est une véritable bénédiction. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça me permet d'enlever de ma tête toutes ces idées qu'on avait dans la religion et qui tardaient à disparaître. Effectivement, le pasteur, quand il a beaucoup parlé, j'ai noté des points. Malheureusement, que je n'ai pas ma Bible au travail aujourd'hui. J'avais pris le sac que je devais même la Bible devant, j'ai oublié, j'ai pris le Dieu, je vois que ça n'y est pas. Mais c'est pas grave, j'ai pu retenir des points clés auxquels tu as développé. En suivant, en ce qui concerne la prière, surtout la prière. La prière, souvent, je pensais souvent que si je ne prie pas sur le repas pour rendre grâce, ça me scandalisait aussi, en fait. Et là, ça c'est pas faux, ce que vous dites. Souvent, quand on prie à la maison, j'oublie souvent les enfants à dire, on leur dit, éteignez la, diminuez le volume, je vais faire la prière d'abord. Comme si la prière, si je ne priais pas de cette façon-là, je ne pouvais pas manger.
Ouais.
Et ça, je tiens ça de la religion.
C'est ça.
C'est resté en moi. Et des fois, quand on est dans la religion, les gens disaient, mais il faut bénir la nourriture. Ou bien, si tu ne sais pas, peut-être qu'il y a du poison, hein, voilà. Pour t'empoisonner. Là, le Seigneur Jésus va enlever le poison. Ces petits détails-là, il faut que j'explique ça bien. Pour que ça, aujourd'hui, je pense que par la grâce de Dieu, ça a attiré beaucoup mon attention concernant l'administration, concernant les pharisiens qui aimaient prier devant les gens, tout ça.
C'est ça.
Ça a attiré mon attention parce que souvent aussi, dans le public, nous aussi, quand je n'aimerais pas, je me mets à prier comme ça. Or, si les choses se font du profond du cœur,
voilà.
Ça vient du profond du cœur, voilà. En l'action du grâce du cœur, en étant reconnaissant au Seigneur, je pense que c'est une bonne chose.
Amen.
Récemment, il y a une de mes compatriotes qui ont parlé au sujet de la prière et elle me disait, oui, ah oui, parce que je suis fatigué, parce que je me réveille à 2h du matin, 3h du matin pour prier forcément.
Ouais.
Parce que c'est là que l'ennemi attaque. Alors, donc vous voyez, quand on prend la prière aujourd'hui comme une incantation ou bien des choses qu'on doit réciter pour combattre les sorciers, alors là, je pense que ça n'a plus son sens. Alors donc, pasteur, tu as bien fait de le souligner, et c'est les petites choses comme ça qui nous délivrent et qui nous enlèvent. Mais cela n'est pas dit qu'on ne doit pas prier.
Ouais.
Non, loin de là. Quand même, on doit prier, rendre grâce au Seigneur, se mettre dans la chambre, être en contact avec le Seigneur, pour un dialogue avec notre Père, pour prier. Mais il ne faudrait pas que nous fassions que, dès que nous n'adressons pas une prière au Seigneur, alors, soit il y a un malheur qui va nous arriver, ou alors il y a un sorcier qui nous attend, ou le diable. Non. Cette façon de faire, je pense que ce n'est pas bien. Parce que, longtemps, dans la religion, il y a ces choses, et il y a ces choses comme ça qui nous trouvent. On pense qu'aujourd'hui, comme nous sommes sous la grâce, et qu'aujourd'hui le Seigneur nous a délivrés par l'évangile, tout ça. Donc nous, il ne faudrait pas qu'on reste comme ça. La doctrine prie, les choses doivent se faire en étant englobées dans le sang de Christ, en étant enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et que nous devons nous mettre en tête que si nous prions, c'est à cause du sacrifice de Christ. Et que si Dieu écoute nos prières, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos efforts ou bien par des pratiques physiques où on se lève, où on s'engenoue, on fait des efforts. Non, non, non.
Voilà.
Je pense que, effectivement, parce qu'il a bien dit, et c'est pour cela que c'est le plus important que nous écoutions souvent l'évangile et que le Seigneur a tout mis en œuvre pour que nous nous retrouvions à travers cette technologie vraiment pour écouter l'évangile.
Ouais.
Parce que c'est l'évangile qui délivre.
C'est ça.
Et si l'évangile délivre de ces petites choses-là comme ça, et que si que c'est comme c'est publicité pour nos enfants. Nos enfants, ils n'ont pas besoin tout le temps de nous demander des choses. Nous savions que nous devons leur donner l'éducation, nous devons leur acheter de quoi les nourrir, nous devons s'occuper d'eux. Alors, le Seigneur, en fait, il en fait de même. Donc, on pense que quand une semaine, deux semaines, on adresse pas les prières au Seigneur, on pense qu'on n'est pas enfant de Dieu parce que ça fait deux semaines qu'on n'a pas prié. Non. C'est ça que j'ai dit à quelqu'un, oui, mais il faut être en communion. On est déjà en communion avec le Seigneur. Nous ne sommes plus l'Église, nous sommes dans le monde. C'est notre attitude dans le monde, notre comportement, d'éviter le péché, de ne pas vivre dans le péché. C'est l'Église qui se distingue du monde, même de la fausse religion, de faux docteur. Alors, donc, si il peut arriver que tu es fatigué, que tu n'as pas besoin d'appuyer au Seigneur, c'est pas grave. Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, demain tu vas le faire. Alors, donc, si on a une bonne idée, une bonne appréciation de la prière en Christ, moi, je pense que c'est bien. Et c'est pour cela que tu as attiré mon attention que vraiment, effectivement, il ne faut pas que nous nous comportions comme les pharisiens. Et que le regard religieux qu'on avait de la prière, il faut que cela disparaisse. Et parce que vraiment, je remercie le Seigneur pour cet enseignement. Voilà ce que j'avais envie de dire.
Oui, c'est bien. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'idolâtrie dans les milieux soi-disant chrétiens, christianisme. Et si vous ne croyez pas ainsi, il faut essayer de commencer à arrêter certaines des pratiques auxquelles les gens sont habitués. Par exemple, la prière publique. Il y en a qui aiment prier en public. Et lorsqu'on leur donne cette occasion, bon, ils sont les premiers à se lever, à lever la voix. Ils aiment, Ils veulent que les gens sachent qu'ils sont des hommes et des femmes de prière. Donc, étant un prédicateur fidèle, si j'arrête cette pratique-là, et je dis maintenant, on ne fera plus cela, que nous sommes venus simplement que chacun prie dans son cœur et demande au Seigneur de nous bénir à travers sa parole aujourd'hui. Il y aura, vous allez découvrir immédiatement qui sont les idolâtres. Parce que leur idolâtrie, leur idole, c'est la prière. Et quand on leur enlève ça, maintenant, ils disent, ah bon, c'est pas la peine, je m'en vais ailleurs. Ouais. J'ai trouvé ça à travers les années. Notre manière d'adorer Dieu est très simple. Et nous nous réunissons, il faut un dirigeant, il faut quelqu'un qui se lève et qui dirige. Ça, c'est la responsabilité du pasteur. Et de ne pas laisser ces pratiques entrer dans l'église, parce que si on ne mentionne pas, si on n'enseigne pas selon la parole, il faut dire que ces pratiques vont entrer. Et c'est pourquoi peut-être il y a un peu de confusion, si je comprends bien la question du frère Aurélien. Il y a un peu de confusion dans les versets 2 et 3. Est-ce que cela s'agit des hommes prédicateurs de qui c'est écrit « Ils ne se marient pas, ils s'abstiennent d'aliments que Dieu a créés. » Donc, par là, ils se mettent à part, comme on peut dire certains prêtres aujourd'hui font. Ou bien est-ce que quand c'est écrit prescrivant de ne pas se marier, c'est quelque chose qu'ils sont en train de dire à l'assemblée et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Je crois que c'est dans les deux sens. C'est vrai, je crois, dans le contexte, il s'agit de gens qui, pour être séparés des hommes et pour donner l'impression qu'ils sont vraiment adonnés à Dieu, alors ils ne se marient pas et ils s'abstiennent d'aliments que Dieu a créés. Donc, je crois que ce sens est vrai. Mais ça influence aussi l'assemblée, dans le sens que d'autres qui les voient disent « Ah, mais peut-être que je dois faire pareil afin que moi aussi je sois un peu plus spirituel. » Et je dois vous dire, à cause de cette influence à travers les années, je connais certains hommes et certaines femmes qui ont abandonné leur épouse pour aller dans des coins disant que non, il faut que je m'adonne à Dieu. Et ils se retirent de la société, ils abandonnent leur famille parce qu'ils ont suivi l'influence de ces hommes-là. Et c'est le même esprit, que ce soit dans les faux docteurs ou bien que ce soit dans l'assemblée. Alors, c'est pourquoi on doit tous faire attention. Parce qu'on peut, même si je reste attaché à ma femme, mais dans mon esprit, je suis en train de regarder un homme qui est célibataire et qui s'adonne à la prière toute la journée longue et il est retiré. Et j'imagine dans mon cœur, ah, peut-être qu'il est plus proche à Dieu que moi. Là, déjà, je suis pris par cet esprit séducteur. Et j'apprécie ce que le frère a dit, que soit nous sommes sanctifiés déjà en Christ ou pas. Ouais. Et si Christ ne nous a pas sanctifiés par son sang, comme tu as parlé du parfum, qui est une bonne odeur devant Dieu, et c'est le sacrifice de Christ, donc nous n'avons pas de sanctification. On peut se mettre à part. J'ai vu un documentaire l'autre jour sur une montagne quelque part en Europe, où ils ont construit un monastère. Et pour monter à ce monastère, ils ont mis des escaliers, et des gens montent cette montagne et ils restent, ils vivent au bout de cette montagne toute leur vie longue, séparés du monde, pensant que ils sont plus proches à Dieu à cause de cela. Il y a des extrêmes comme ça. Mais je crois que cet esprit de séduction est dans le cœur de tout homme qui imagine que, à part l'œuvre de Christ, il y a une autre manière d'être sanctifié. Et souvent, c'est dans les petites pratiques, comme tu as dit, Amédée, On a toujours de la religion, ces pratiques dans nos pensées. Que, ah, si je ne fais pas ceci ou cela, donc cela maintenant affecte mon état devant Dieu. Non. D'abord la prière. Quand on dit on peut aller 2 ou 3 semaines sans prier, je ne le crois pas, parce que la prière n'est pas fait avec des actes extérieurs. Ce que les hommes appellent la prière n'est pas ce que la Bible appelle la prière, parce que dans Romains chapitre 8 et le verset 26, c'est écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui est la prière, c'est ce qui sort du cœur. Combien de fois, même moi ce matin, quand je me suis levé, je me préparais, c'est très tôt le matin, j'étais un peu fatigué et je soupirais dans mon esprit envers Dieu. Personne d'autre était autour de moi. Je n'étais pas assis dans une certaine position de soi-disant prière, mais dans mon cœur, mes pensées allaient vers le Seigneur de me soutenir, et c'était des soupirs inexprimables. Cela veut dire, c'est l'Esprit qui mettait en moi déjà, montrait ma faiblesse, mais aussi mettait en moi cette pensée que c'est lui, par Christ le médiateur, que je suis ce que je suis. C'est la prière, c'est comme je ne suis pas conscient du fait que je suis en train de respirer maintenant. On ne tient pas. Si quelqu'un est en train de tenir compte de combien de fois il respire, donc c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Respirer doit être naturel. C'est la prière. Ce n'est pas ce qui est évident aux autres. Mais encore, c'est pourquoi c'est écrit ici, et effectivement, Aurélien, tu dis vrai, l'accent ici, c'est sur ces faux prédicateurs, de qui c'est écrit, ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ce mot flétrissure, il s'agit d'un fer rouge qui est chauffé, qui marque la propriété, comme on fait avec des bêtes. Ça marque ces bêtes-là comme appartenant à quelqu'un. Et c'est ça le mot, la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Cela veut dire ils sont des gens réprouvés et seront toujours réprouvés. Ils n'ont pas la marque des élus. C'est le contraire. Ils sont déjà abandonnés à leur sens réprouvé. Et ils portent cette marque dans leur conscience, et pourquoi toute leur vie, quelle que soit la vérité, c'est écrit ailleurs, ils sont toujours en train d'apprendre et jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alors, je crois la meilleure explication que je peux donner là. Et quand c'est écrit à créer pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est vrai, il s'agit là des véritables prédicateurs. La manière qu'ils ont connu la vérité, c'est par la grâce de Dieu. Et donc, ils sont fidèles à cette vérité. C'est ça.
Et par rapport à ce que Amédée vient de dire là, la nourriture, et souvent nous devons user de discernement, et cela m'arrive aussi fréquemment, cela m'arrive fréquemment où je vais quelque part, et la personne est dit de prier le pasteur pour que si la nourriture est empoisonnée, la prière va l'enlever. J'ai dit, mais moi, c'est une occasion pour moi de commencer par prêcher, d'essayer que si je dois conduire Dieu pour qu'il enlève l'empoisonnement, là, je ne suis pas en sécurité. Et je ne fais pas cette prière, je préfère parler de Dieu et lire et manger et expliquer à la personne que ce n'est pas nous qui dirigeons Dieu pour qu'il nous désempoisonne. et ce n'est pas notre prière qui les empoisonne,
ouais.
Mais Dieu veille sur nous, effectivement, sa parole et son œuvre dans laquelle nous sommes sanctifiés fait que même les cheveux de notre tête ne tombera pas à terre sans sa volonté.
Amen.
Donc nous ne sommes pas conduits notre vie comme on va conduire notre respiration, ça vient naturellement.
Ouais.
Que
ouais.
À des moments donnés, même j'ai besoin plutôt que de prier et faire croire à la famille ou à la personne que c'est ma prière qui sanctifie la maison, je préfère prêcher. Peut-être il y aurait d'autres personnes que peut-être il n'a pas bien compris la chose.
Voilà.
Et je peux lui montrer que c'est l'action de grâce qui est importante et faire quand même la prière et remercier Dieu pour qu'il entende contrairement à ce qu'il voulait entendre de ma bouche.
Amen.
Donc c'est une question de discernement que nous devons faire. Il lui demande de prier pour
ouais.
que l'extorsion n'arrive pas.
Ouais.
Bon, tu sais ce qu'il voulait dire.
Ouais.
Mais si c'est quelqu'un qui est dans l'évangile depuis longtemps, qui est nu et continue d'être idolâtre, et fait de la prière une idolâtrie, une puissance spéciale au pasteur là, ou
ouais.
d'enseigner carrément que
c'est ça.
Dans cette
c'est
idolâtrie.
Voilà, ils font de nous des idoles. Nous sommes leur idole. Et nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Mieux vaut leur dire non. C'est quand les gens veulent m'appeler toujours même pasteur, je dis non, je m'appelle Ken. Tous ceux qui sont dans notre assemblée ici m'appellent par Ken. Ce n'est pas pasteur. Parce qu'on peut encourager même par cela que nous sommes un peu plus élevés qu'eux. Mais
voilà.
Je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Qui annonce aux autres pécheurs où est le salut. C'est ça.
Voilà.
C'est bien.
Voilà. Donc, il nous faut vraiment discerner, voir ce que l'individu qui est là, dans quel sens il nous propose ou
voilà.
bien il dit la chose.
Voilà.
Et en même temps, l'enseigner et l'amener vraiment à se voir et toujours entièrement en Christ.
Amen.
C'est plus sécurisant pour lui que de faire croire qu'il faut prier. Et même si en priant, nous pensons que c'est. Quand nous prions que nous sommes en sécurité durant une semaine, il faut abandonner immédiatement cette sorte de prière, car
ouais.
ça là n'est pas la prière, c'est une cérémonie.
C'est ça.
Sur laquelle on se base peut-être pour se sentir sécurisé. Or, ce n'est pas une vraie sécurité, ça.
Mm-hmm.
Vous voyez, donc,
c'est le mensonge.
Apprendre à. Même la vraie prière, c'est l'écoute de Dieu.
Mm.
C'est quand Dieu, c'est Dieu qui nous parle et non nous, alors à Dieu. Et maintenant, si nécessairement nous voyons Dieu vouloir exprimer. Notre sentiment envers Dieu, nous n'avons même pas les mots pour l'exprimer. Et l'Esprit nous vient en aide.
C'est
tout
ça.
Ce qui reste pour nous est vraiment sanctifié par la parole, par la prière. Nous avons l'odeur de Christ en nous. Et nous devons veiller à cela et communiquer. Effectivement, on peut communiquer le faux par la parole, mais on peut aussi communiquer le faux par le fait d'accepter l'idée que les gens se font de nous ou de faire des choses selon l'idée que les gens se font des choses. Et là, nous serons en train de communiquer autre chose que nous prêchons sans le savoir.
Hmm.
D'où le discernement nécessairement
c'est
pour
ça.
Dire parfois non, ou bien même dire mangeons tout simplement,
voilà.
ou même ceux qui discutent, il y a quelqu'un qui discute contre moi chaudement, il rejette l'évangile clairement, il dit non en tout cas, que je garde pour vous. Et après, il dit, bien, nous allons manger
voilà.
et on va prier le Seigneur. Mais voilà. nous allons prier quel Seigneur.
Quel Seigneur, c'est ça.
Si ça ne sont pas d'accord,
c'est ça.
Nous parlons.
Ouais, ouais.
Nous voulons parler de qui, à
ouais.
qui, et pourquoi.
Voilà.
Ah, je dis, non, moi, je ne participe pas à ces choses
c'est
qui
bien.
Ne sont pas claires pour moi.
C'est bien.
Il a besoin d'aller réfléchir.
Ouais.
Et moi, je continue.
Ouais.
Et quand il s'est convaincu que nous partageons le même Dieu,
ouais.
là, nous pouvons réellement prier, parler ensemble.
C'est ça.
Mais quand il est dans cette discussion, sauf il s'est manifesté contre, moi je ne vois pas dans cette position de se faire avec lui.
Okay.
Donc c'est une question de discernement.
Amen.
Et nous devons vivre réellement ce que nous croyons pour ne pas laisser entendre à ceux qui s'opposent ouvertement à cette vérité que ce qu'ils pensent quoi d'eux-mêmes est toujours vrai.
Merci bien, c'est bien précis et je suis entièrement d'accord. Nous ne devons pas nous laisser encore soumettre au joug de ces hommes-là, mais tenir ferme dans la liberté dont Christ lui-même nous a affranchis. Et
oui.
merci bien. Je dois m'arrêter là, mais Dieu voulant, qu'on va reprendre la semaine prochaine et que le Seigneur bénisse chacun de vous dans le champ où le Seigneur vous a placé. Il y a un champ en France, il y a un champ au Bénin, il y a un champ en Côte d'Ivoire, il y a un champ au Togo, partout où le Seigneur a ses brebis, c'est là le champ. Et il va faire en sorte que ses brebis entendent sa voix et ces brebis-là vont le suivre. Ça, nous le savons.